Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. L'année 2024 commence plutôt bien pour nous parce que, eh bien, en 2023, on avait quitté Marine, qui est partie, eh bien, sur de nouvelles aventures. Et on a le plaisir, eh bien, de retrouver, vous avez le plaisir, chers auditeurs, de retrouver une voix féminine, puisque nous accueillons aujourd'hui Sophia.
Bonjour.
Bonjour Sophia. Alors tu as accepté de faire partie de l'équipe de Cinérama. Simplement une petite question, quel est ton réalisateur préféré?
Je dirais Wim Wenders.
Et tu n'en parleras pas aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi?
Non, aujourd'hui je vous parlerai de Martin Provost plutôt, dans Bonnard, Pierre et Marthe.
Et vous messieurs, vous avez chacun un film?
Oui, alors moi c'est le premier long métrage d'une jeune réalisatrice britannique, Charlotte Regan, c'est Scrapper.
Et quant à toi Manu?
J'ai un film d'horreur, une production Blumhouse, Night Swim.
Et nous aurons l'occasion d'entendre un réalisateur, et pas n'importe lequel, c'est Joachim Lafosse pour son film Un silence. Mais nous allons commencer cette émission avec une première comédie pour Cédric Kahn qui nous emmène sur le plateau d'un film social qui contamine le tournage.
Ben oui, c'est le film, et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Oh putain, t'as vu l'heure? Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser?
Non, on va pas baiser, je veux bosser.
Oh non, tu fais chier.
Je vais bosser mon sexe en supplie.
Il y a des réalisateurs qui ne chôment pas. Cédric Kahn en fait partie. Après Le procès Goldman, sorti en septembre dernier, que tu avais chroniqué Manu, eh bien sort Making of en ce début d'année 2024, deux films qui n'ont rien à voir. Le premier était un film de procès, tandis que Making of est une comédie, ou plus exactement une fausse comédie sociale, mais comédie quand même. Mais de ces comédies qui commencent avec un os. Le film s'ouvre sous une pluie diluvienne. On y voit des ouvriers prendre d'assaut une usine quasi abandonnée et se battre avec un service d'ordre. À la tête de ces ouvriers, Jonathan Cohen, mais assez vite, eh bien, on sent que cette prise d'assaut n'est pas réelle, mais une séquence d'un film tourné par Simon Denis Podalydès.
Tu dois rejoindre les producteurs au resto.
Non, j'en ai rien à foutre de manger avec les producteurs. On va pas se faire encore un gaspro avec deux têtes de cul.
Tu trouves super, Alain? Tu trouves crédible, un ouvrier?
Bah, carrément, à fond.
Mais non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule.
T'es obligé de crier tout le temps?
Mais bien sûr. Putain, mais t'as raison mille fois.
Des os, il y en a beaucoup. Il y a cette pluie artificielle, il y a l'acteur donc qui a été choisi pour le rôle, qui se montre insupportable, autant dire que Jonathan Cohen s'en tire sans forcer. Et puis il y a aussi les cofinanciers du film qui, au premier jour de tournage, exigent que le scénario soit revu.
Notre producteur, la seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
Je ne change pas une ligne du scénario.
Ça représente combien votre apport?
1 million d'euros.
Dans la version que veut tourner le réalisateur, la fin est celle d'un abandon de l'outil de travail avec des ouvriers dépossédés de leur usine, une tragédie donc. Et dans la version approuvée par les financiers, eh bien les ouvriers s'unissent pour reprendre leur usine sous forme de coopérative. C'est une comédie, un feel-good movie. Alors c'est ce qui était montré dans Reprise en main de Gilles Perret par exemple, mais ce pourrait être aussi, eh bien, les comédies de Louis-Julien Petit à qui l'on doit Discount ou Les Invisibles. Un bras de fer va donc s'engager. Soit le réalisateur doit s'avouer vaincu pour ramasser le million, soit il compte sur son producteur pour trouver le million manquant, soit il demande, eh bien, des efforts à son équipe qui doit travailler gratuitement pour boucler le tournage.
Le principal financier du film nous a lâchés.
Il faut demander à l'équipe de terminer sans être payé.
Et alors qu'est-ce que je dis à l'équipe?
Bah tu dis rien, tu fais, tu tournes, tu fais comme si tout va bien, tu tournes.
Ton film, comment ça va?
Bah les techniciens sont énervés.
Vas-y, ferme ta gueule, toi, je te
parle. Pardon pas. Qu'est-ce que tu...
Les acteurs font n'importe quoi.
T'es une grande vedette! Bravo! Mais t'es surtout un énorme fils de pute!
Je me dis que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive.
Eh hey, mais il pleut, les gars! Il pleut!
Putain, mais vous vous faites tout chier!
Je porte mon projet comme un fardeau. Et je me sens seul.
La mise en abîme est totale, le film est dans le film et le combat social de la fiction contamine le tournage. Cédric Kahn n'a pas seulement voulu réaliser un film sur le cinéma pour en montrer les travers, avec l'auteur extravagant, le producteur menteur et l'importance de l'aspect financier. Le réalisateur a également fait un film sur le travail. Celle qui monte au créneau pour défendre le film, c'est la directrice de production, incarnée par Emmanuel Berco. Le réalisateur est montré comme un créateur, un auteur, c'est le statut du cinéaste en France. Hein. Cédric Kahn fait rejaillir les inégalités présentes sur les tournages, avec les chefs de poste capables de renoncer à une semaine de salaire quand les subordonnés ont plus de mal, même au nom de l'art. Les questionnements de ceux qui luttent pour leur usine, d'ailleurs ce sont les vrais ouvriers que le réalisateur a voulu engager pour son film à la manière d'un Ken Loach pour injecter davantage de vérité, ces questionnements sur l'engagement, les idées et les conditions matérielles de l'existence se reflètent dans la sphère de l'industrie du cinéma. Construit en trois parties, le film tire son titre du making-of qui est préparé par un apprenti réalisateur et qui vit alors une révélation tant au niveau de ses aspirations professionnelles que dans ses sentiments. C'est peut-être là le geste de trop, car cela ajoute une couche au récit qui n'en avait pas forcément besoin. Alors on y décèle l'horizon des sentiments, un amour naissant pour un apprenti réalisateur qui contraste avec la phase que vit le réalisateur du film, confronté aux envies de séparation de sa compagne, qui sent bien que le travail, le cinéma, compte plus qu'elle et la famille. Alors c'est en le prenant comme une comédie sociale et un clin d'œil au cinéma que le film de Cédric Kahn est le plus appréciable, le prendre dans toute sa modestie finalement, car on aurait grand tort de le comparer à 8,5 ou La Nuit américaine, qui nous faisait également côtoyer le cinéma et les réalisateurs. Ce film, Making of de Cédric Kahn, est en salle depuis le 10 janvier. Alors tiens, si pour parler d'un peintre, on parlait aussi de sa muse, qui est aussi sa femme. C'est la première chronique de Sophia, Bonnard, Pierre et Marthe.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Si vous voulez devenir un modèle...
J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous.
Dans ce biopic un peu particulier, Martin Provost dresse un double portrait lumineux, celui d'un couple iconique de l'histoire de l'art pictural, Pierre et Marthe Bonnard, incarnés respectivement par Vincent Macaigne et la solaire Cécile de France. Après le tant acclamé Séraphine du réalisateur, long métrage qui a raflé de nombreux Césars, dont celui du meilleur film en 2009, et qui était un biopic sur la peintre Séraphine de Senlis, Martin Provost ne souhaitait pas spécialement réitérer l'expérience. Approché par la petite nièce de Marthe Bonnard, qui le sollicite pour un film, il refuse sa proposition dans un premier temps, avant de se raviser une petite décennie plus tard, en se basant encore une fois sur le travail de recherche de Françoise Cloire, qui avait déjà été sa source pour Séraphine et qui a publié en 2016 L'Indolente, le mystère Marthe Bonnard.
Alors l'Indolente, c'est vous? Votre mari a fait de vous un mythe, madame.
Un mythe. Ce film, il s'y aventure en le concevant non pas comme un biopic sur le peintre ou la peinture, mais sur un couple. Ce choix de l'entité couple comme sujet sert de support à plusieurs explorations. Dans un premier temps, il permet évidemment de redécouvrir l'œuvre du peintre, cofondateur du groupe post-impressionniste des Nabis, ainsi que d'appréhender la place proéminente que Marthe occupe, puisqu'elle habite près d'un tiers de la production artistique de Pierre Bonnard.
Ce sont mes amis, les Nabis. Sérusier, Signac, Puyard. Ensemble, on a décidé de révolutionner la peinture moderne.
Rien que ça.
La photographie du film nous offre à ce titre de véritables tableaux à la riche palette, autant d'impressions solaires baignées de rayons dorés où les éléments du décor découpent le cadre en compositions qui rendent hommage aux œuvres du peintre et à ses inspirations. L'étoile du maître se superpose à des papiers peints à motifs rétro et japonisants. Un montant de porte cadre un split screen pour une action duel, comme dans L'homme et la femme. Un miroir nous renvoie un regard cam, façon autoportrait à contre-jour, et puis Cécile de France qui s'adoucit dans l'eau. Écho à nu dans le bain, nu à la baignoire. Les scènes de création sont convaincantes également. Vincent Macaigne, affairé à son art, méconnaissable dans le rôle de Pierre Bonnard, parvient à imiter les gestes et la touche du peintre. Cécile de France, à son tour, déchirante lorsqu'elle peint en transe dans cette incarnation d'une Marthe esselée, transmutée en l'artiste Solange. Bien loin des rôles dans lesquels on a l'habitude de la voir. Chacune des œuvres cadrées est discursive. On comprend les tableaux comme des jalons de la reconstitution historique de cette grande histoire d'amour. Car c'est bien sur ce sujet que se porte avec la plus grande attention la lunette du réalisateur.
Tu m'en veux vraiment ?
Oui.
Tu m'aimes plus alors ?
Non. Enfin, ça dépend.
Ça dépend de quoi ?
De comment tu m'aimes, toi ?
Bon. Petit canard a besoin d'une preuve.
L'amour, matière affective, nourricière, qui se tarit dans le prosaïsme du quotidien et y renaît aussi au contact de la nature, source de jouvence immersive et d'éclat juvénile pour notre couple. Dès la séquence d'ouverture, la structure du film se donne à voir, un rythme d'abord rapide, scandé par des ellipses temporelles fondues au noir. Et des ellipses, il en faut pour narrer cette romance au long cours, presque 50 ans, du Paris montparnassien de la fin du 19e avec ses mondanités bourgeoises, ses tentations, sa folie, en passant par la roulotte, maison du bord de Seine, ses plongeons salvateurs, ses déjeuners sur l'herbe entre amis avec Monet et compagnie, où le temps du récit s'attarde plus longuement. En ce lieu, les panoramiques de suivi ultra dynamiques y sont particulièrement magnifiques. La caméra poursuit les deux amoureux en cavale qui se dépouillent de tous leurs atours pour faire corps, ensemble, avec la lumière et la couleur du dehors. Elle les cherche, prend part à leur course effrénée, les perd, comme un aveu d'ignorance, sur ce que l'on ne pourra jamais approcher de leur intimité. Puis le temps du récit se teinte, août 1914, août 1918, la guerre, les va-et-vient à Paris dans un climat austère, l'infidélité, les manipulations, l'isolement, la maladie, la reconstruction jusqu'à la fin de vie au Canet en 42.
Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe ?
Je suis inquiète.
Inquiète de quoi ?
Pierre me trompe.
S'intéresser au couple, c'est aussi et surtout pour Martin Provost, cinéaste des femmes, l'occasion de faire un peu plus la lumière sur Marthe Bonnard, là où il dessine les parts d'ombre de celui qu'on appelle le peintre du bonheur. Le portrait diptyque prend donc en asymétrie, à mesure que la tendresse des regards du réalisateur de la bonne épouse se porte sur la condition de Marthe, elle qui, en échappant à sa classe sociale, s'enlise d'une part dans ses mensonges et de l'autre dans les réalités de la condition de femme. À cette époque, au foyer, intendante, ménagère. Martin Provost nous offre encore de cette manière ce qu'il sait bien faire, un portrait de femme passionnante et méconnue, plus incarnée et complexe que les représentations floues qu'en a fait son mari. On perce une part des mystères de Marthe, de son vrai nom Marcia Boursin, et on quitte le film avec l'impression d'en savoir un peu plus sur elle que ce que son amour de toujours, Pierre, n'en aura jamais su.
C'est vrai que c'est une nouvelle manière de voir Cécile de France et Vincent McCain donc dans ce film Bonnard, Pierre et Marthe en salle depuis le 10 janvier. Emmanuel Devos et Daniel Auteuil, un couple qui garde un silence. Nous parlons du dernier film de Joachim Lafosse et nous entendrons le réalisateur.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Bonnard. Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Joachim Lafosse avance dans le cinéma en construisant une œuvre qui tourne autour de la famille. Il a réalisé le très remarquable L'économie du couple en 2016 ou encore dernièrement Les intranquilles en 2021. Il nous revient avec Le silence, un film pas facile qui exige des journalistes qu'ils se taisent sur certains aspects du film, ce que je vais bien sûr faire. Alors il suffira peut-être de s'attarder sur le point de départ que Joachim Lafosse a pris. Il s'est appuyé sur l'affaire Issel. Dans cette dernière, Victor Issel, l'ancien avocat des familles de victimes de Marc Dutroux, a été mis en cause en 2007 pour détention d'images pédopornographiques. Et a été condamné à 10 mois de prison ferme. Et quelques mois après, il a été poignardé par son fils qui ne supportait pas le mensonge de son père qui fut le symbole donc de la lutte contre les violences sexuelles en Belgique. Le seuil du film, ce qui suit donc immédiatement le générique, se passe dans une voiture à son volant Astrid, la femme d'un célèbre avocat qui défend donc des familles victimes d'actes pédophiles. C'est dans ce silence que débute ainsi le film de Joachim Lafosse. Le réalisateur ne lâchera plus cette femme qui garde depuis 25 ans une vérité qu'elle ne peut faire éclater sans déséquilibrer la famille. Mais à bien considérer, cette famille est bancale, le couple n'a plus de désir, la parole ne se libère pas. Et tout va s'accélérer avec la pression médiatique. L'intenable ne sera plus tenu, l'indicible pourra être révélé et l'impunissable probablement eh bien, puni. Certains ont vu dans le film de Lafosse une chape morale qui n'est pas du tout présente à mon sens. Le réalisateur belge s'intéresse à la honte, à ce qui en découle, et le silence qui en est parfois un symptôme. Alors comme on va l'entendre de la bouche même du cinéaste, la mise en scène est rugueuse, multipliant les intérieurs sombres, les séquences de nuit ou en voiture, dans les espaces clos, limitant les dialogues. Le réalisateur s'échappe des champs contre champs, des plongées ou contre-plongées, laissant planer eh bien, une sorte d'horizontalité. Nous écoutons Joachim Lafosse, que nous avons pu rencontrer il y a peu.
Il y a certains crimes pour lesquels c'est au fond les victimes les plus proches ou l'entourage des victimes de ces crimes qui finalement se cachent le plus, en fait, sont le plus dans le silence.
Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où ? Avec moi, à l'hôtel.
C'est quelque chose qu'aujourd'hui, après la libération de la parole, après MeToo, évidemment, des tas de spécialistes, de sociologues ont identifié ça. C'est-à-dire que quand il y a crime, c'est pas le criminel qui s'éloigne de la cellule familiale ou du lieu de travail où le crime a eu lieu, mais c'est la cellule qui explose. Et c'est les proches de la victime, voire la victime qui s'éloigne. Alors, c'est pas tout le cœur du film. Aussi, assez rapidement, quand j'ai commencé à échanger avec Emmanuel DeVos sur l'écriture du scénario, on s'est rendu compte tous les deux que vraiment, ce qui faisait son déni, son incapacité de sortir du silence, c'est la honte. Et que, et ça, je me suis dit, mais au fond, il n'y a pas tant de films que ça qui décrivent le venin de la honte.
J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il n'est plus possible de me taire.
Vous étiez là depuis combien de temps? Depuis la perquisition? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Madame Scar, votre fils, il va avoir besoin de vous, là.
J'ai aujourd'hui cette chance depuis 3 ou 4 films, ça a commencé avec l'économie du couple, et j'ai refait ça sur Les Intranquilles, sur Un silence. C'est de répéter tout le film dans sa chronologie et dans les décors, avec les acteurs, 2 ou 3 semaines avant le tournage. Et c'est un luxe incroyable parce que du coup, c'est un moment de réécriture, en fait. Parce que au tournage, on n'a pas le temps, en fait. Tout va trop vite, les choses coûtent trop cher, tout le monde a trop de questions. Enfin, au fond, moi, aujourd'hui, je ne comprends pas comment les producteurs n'obligent pas leurs auteurs à répéter un film, enfin, à le traverser avec leurs comédiens. Ça me paraît. C'est aussi un moment où on peut, avec le directeur photo, réfléchir au découpage. Alors, en l'occurrence, comme avec Un silence, je serais vraiment un sophiste et un arnaqueur ou un grand menteur si je vous disais que je ne voulais pas d'esthétique à ce film. Mais l'esthétique que je cherchais à déployer, à mettre en place avec ce film, c'était, une esthétique de la sobriété. Je ne voulais pas que ça soit pop ou que ça brille, mais sans être sale non plus. J'avais envie d'une forme de classicisme.
C'est toi qui as été sur mon ordinateur?
Oui.
Mais qu'est-ce que tu fous sur mon ordinateur? Faut que tu me soutiennes.
Alors Daniel, il y a un truc que je trouve vraiment, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais je ne dirai jamais assez combien je lui suis reconnaissant et combien il a été généreux, parce que, bon voilà, il y a quelques acteurs fameux qui ont reçu le scénario, qui le trouvaient intéressant, mais qui m'ont dit ne pas souhaiter jouer ce rôle qui sans doute atteindrait leur image. Ouais. Aujourd'hui, je trouve ça dommage, parce que justement, à un moment où on parle de la question de l'emprise, de la domination, etc. Je trouve qu'il faut bien qu'il y ait des hommes qui le jouent. Et c'est remarquable de le jouer. Et Daniel, il a lu le scénario. Je lui ai envoyé. Et 2 heures après, il m'appelait. Il me disait, c'est bon. J'ai super envie de jouer ça, ça et ça et ça. Et cette scène, c'est super.
C'était combien sur la liste,
juste? 5e.
Raphaël, tu es mon fils. Tu fais une connerie, tout le monde le voit. Regarde comme ça les excite. Ils attendent que ça.
Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari?
C'est vrai qu'elle danse avec son fils et qu'elle dépose quelque chose qu'elle ne devrait pas déposer sur les épaules de son fils. Et n'empêche qu'il reste à la porte et qu'il ne rentre pas pour dire « Bon, viens, on danse. » Ça serait, enfin, ça réglerait tout, mais il ne peut pas, en fait. Le crime fait qu'il ne peut pas. Et le venin du crime, il est là. C'est-à-dire que le crime, ce n'est pas que le crime, c'est toutes ses conséquences. Et c'est ça que j'ai essayé de faire voir avec le film.
C'était le seul qui ne savait pas. Moi, j'ai rien dit. Tu te rends compte de ce qui se passe pour lui?
Pour moi, un cinéaste reste quelqu'un qui se demande ce qu'il ne va pas filmer plutôt que ce qu'il va filmer. L'enjeu d'un film, c'est de stimuler la création de l'autre auteur du film, qu'est le spectateur ou la spectatrice. Et pour ça, il faut laisser un espace. C'est-à-dire, c'est offrir une forme par le hors-champ, par une temporalité, un rythme, qui laisse de la place et de la possibilité au spectateur de vivre, de sentir, de laisser apparaître un film singulier qui ne ressemble à aucun autre et qui est différent pour chaque spectateur.
Tu sais très bien ce qui se passe, justement, c'est pas le moment de lâcher.
Maman, tu lui as parlé? C'est quand que tu vas réagir?
Nous entendions Joachim Lafosse pour le film Un silence en salle depuis le 10 janvier. Des retrouvailles ont lieu entre un père et une fille. C'est le grand prix du meilleur film international de Sundance. Rien que ça.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Pour son premier long métrage, Charlotte Regan n'a pas opté pour une solution de facilité en choisissant de traiter un sujet social maintes fois porté à l'écran, à savoir la vie, les joies et les peines d'un enfant des classes désargentées de la banlieue londonienne qui doit faire face à des lendemains incertains suite au décès de sa mère. À cette équation déjà compliquée s'ajoute un père qu'elle n'a jamais vu qui réapparaît un beau jour et avec qui elle doit composer. Alors les enjeux sont simples mais d'une extrême importance. Que faire de cette figure paternelle jamais fréquentée qui va tenter à sa manière de se substituer au souvenir chéri de sa pauvre mère et surtout va-t-il lui enlever le peu de liberté qu'elle a et qu'elle essaie farouchement de sauvegarder au moment où l'adolescence commence à pointer le bout de son nez.
Can't stay for long.
I'll stay as long as I want.
No, he's not a vampire, that's just stupid. I think you can just turn out, say sorry, but it'll all be alright.
Your mum never wanted me around, you know.
But you didn't even try.
Premier long métrage donc pour Charlotte Regan, mais aussi premier rôle donc pour Lola Campbell dans le rôle de Georgie, cette étonnante gamine de 12 ans qui a réussi à berner les services sociaux et qui arrive à vivre seule et qui fait parfois les 400 coups avec son amie Ali pour tromper la nuit ou tout simplement pour ne pas faire face au deuil qui la ronge. Alors Lola Campbell est une belle trouvaille de casting car elle évite tous les clichés que l'on pourrait regretter dans ce genre de famille décomposée. Pétillante, charismatique et toujours alerte, quand bien même son personnage s'enferme parfois dans une mélancolie bien compréhensible ou ne sait tout simplement pas trop quoi répondre à certains adultes la regardant de travers, c'est une révélation sur laquelle le cinéma britannique pourra désormais compter. Elle ne démérite pas, bien au contraire, face à un plus expérimenté Harris Dickinson, vu récemment dans La Palme d'Or sans filtre de Ruben Östlund. Lui aussi casse l'image que l'on pourrait redouter du jeune père démissionnaire et loubard qui revient à l'improviste et ce dès son introduction très drôle où il pénètre dans le jardin de Georgie en passant par-dessus le mur du jardin arrière comme un voleur et qu'il se présente à sa fille comme si de rien n'était. La tâche assez complexe du rôle est de nous faire apprécier et même aimer ce père complètement absent qui va tenter de tisser une relation de confiance avec sa gamine inconnue et rebelle. Alors mal cerné, ce personnage aurait été absolument épouvantable, l'aurait fait s'écrouler ce qui constitue en fait le cœur névralgique du film, l'alchimie entre ces deux paumés innocents et attachants. C'est avec plaisir qu'on se rend compte que, comme d'autres pièges cités, Scrapper, c'est être plus intelligent que la moyenne. Peut-être est-ce déjà perceptible dans le sens de son titre, car Scrapper veut dire grattoir en anglais. Et c'est ce qu'il est, très modestement, ce charmant petit film. Un coup de grattoir dans le vernis nécrosé du drama social qui pollue de façon anonyme, car ultra répétitive et sans aucune imagination, nos écrans depuis plusieurs décennies.
Encore.
You missed one. Didn't think I needed you.
Ah, big one.
I don't need you to replace mom. I need someone.
Je dis très modestement, parce que Scrapper ne réinvente non plus pas la roue. La chose qui change, le tout, c'est que le film, par contre, a beaucoup, beaucoup de cœur. Et surtout, ne cherche pas à en faire trop. Alors, au contraire, c'est même par sa modestie que le film marque des points en nous plongeant progressivement dans le quotidien de ces déshérités, de ces frics que l'on parvient sans peine à aimer. Sa durée même, à peine 1h25, montre la maîtrise payante de sa réalisatrice qui sait quand s'arrêter et que les moments clés sont suffisamment bien orchestrés pour nous impacter. Alors, s'il fallait la comparer à ses compères cinéastes britanniques, on pourrait dire que Scrapper, quelque part, part de chez Ken Loach et s'est arrêté en route chez Edgar Wright, réalisateur plus fantasque, mais dont on semble oublier également le versant social mis en scène dans le background de Shaun, dans Shaun of the Dead, et dans toute la misère sociale qui plombe l'anti-héros du dernier pub avant la fin du monde et qui va trouver dans son épilogue une conclusion aussi lunaire que poétique. Alors c'est exactement ce qu'arrive à insuffler Scrapper, le génie opératique de Wright, un petit peu en moins quand même, mais dans son univers à la base extrêmement terre-à-terre. La magie du regard de Georgie, combinée à la tendresse inattendue de celui de son père qui comprend tout ce qu'il aurait à perdre s'il laisse tomber cet enfant, est une belle façon de montrer ce que l'on pourrait prendre pour une grosse erreur de jeunesse peut se transformer en quelque chose de précieux pour peu qu'on s'y ouvre totalement. Alors le film a gagné déjà plusieurs prix dans des festivals prestigieux, dont celui dont tu parlais Vincent de Sundance. C'est désormais l'occasion de voir s'il va lui aussi gagner vos cœurs.
Ce film, Scrapper, tiens, on peut le dire comme ça aussi, est en salle. En France, il est à peu près sur 120 écrans, donc vous avez le moyen de le trouver près de chez vous. Extension d'un court-métrage devenu viral sur YouTube en 2014, The Night Swim nous met dans le bain.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Quand on a fait réparer la piscine... On nous a dit qu'elle n'avait pas été utilisée depuis 15 ans.
Peut-être que les gens n'aimaient pas se baigner ?
Comment dire, un Night Swim n'est ni le premier ni le dernier film d'horreur en s'appuyant sur un concept foireux imaginé par des scénaristes qui, lors d'une soirée arrosée, ont pu trouver l'idée exceptionnelle ou, au minimum, insolite. Après tout, hein, dans La jeune fille de l'eau de Shyamalan, hein, une nymphe poursuivie par des créatures de l'au-delà apparaît et disparaît d'une piscine par on ne sait quelle opération divine. Alors certains auteurs parviennent tout de même à pousser très loin la suspension d'incrédulité du spectateur, dont d'ailleurs je fais partie, hein, me parler d'un frigo tueur comme The Refrigerator, d'un lit maléfique dans Deathbed, d'un yaourt meurtrier dans The Stuff, ou encore d'une VHS qui tue dans Meurtre en VHS, bah, ne me dérange aucunement à condition de mettre en place un univers un peu fantaisiste permettant tous les délires possibles. À défaut de vraisemblance, dernier souci de l'amateur de série B iconoclaste. Et puis surtout d'avoir un minimum de recul par rapport à ce que l'on représente à l'écran. Alors le pitch de Night Swim, hein, est à la fois débile et excitant, ce qui n'est pas forcément incompatible. Hein. Alors imaginez une piscine hantée qui prend une vie pour en sauver une autre. Alors soyons honnêtes, hein, ce n'est pas la piscine en elle-même qui est dotée de pouvoir, mais l'eau qui provient d'une source naturelle régénératrice. Alors au passage, cette source a dû poser quelques problèmes narratifs aux scénaristes qui ont eu bien du mal à se positionner sur ses pouvoirs et son cadre. En effet, pendant les deux tiers du film, elle est seulement reliée à la piscine, et puis vers la fin, on apprend, par de menus détails, qu'elle alimente toute la maison. Ce qui, en termes de cohérence, peut faire des nœuds dans le cerveau des spectateurs les plus attentifs, et même des plus distraits.
Mes enfants ont vu des choses étranges. Et j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon mari.
Papa !
Je te cherchais.
Il y a forcément un moyen de mettre fin à tout ça.
Si tout cela était pris avec une certaine distance, un humour noir ravageur, le film pourrait fonctionner. Hélas, très premier degré d'un sérieux qui frise parfois la ringardise, Night Swim déroule un récit prévisible d'une platitude totale encombrant de clichés embarrassants. Alors donc, Ray Waller, un ancien joueur de baseball américain, a dû abandonner sa carrière suite à une maladie dégénérative, une sclérose en plaques. Avec sa petite famille, hein, sa gentille femme pleine de compassion et ses deux enfants tête à claque, un solitaire et une ado même pas rebelle, il emménage dans une nouvelle maison inoccupée depuis quelques années. Mais la demeure, qui a l'air abandonnée depuis des lustres, hein, possède une piscine, argument de choc pour Ray de motiver les siens, car il ne désespère pas de reprendre sa carrière. La nage lui offre l'opportunité de mettre en pratique régulière sa rééducation. Évidemment, la baraque est tributaire d'un lourd passé, dont la disparition d'une petite fille 20 ans auparavant. Des forces malveillantes vont alors se réveiller. Amateur de frousse et de séquences horrifiques, alors passez votre chemin. Le premier long métrage de Bruce McGeer, hein, brille par son absence de tension. Certains plans sont joliment travaillés, hein, en l'occurrence les plans aériens de la piscine, et l'ensemble s'avère plutôt bien filmé sur le plan strictement technique, mais l'ennui gagne rapidement du terrain dès les premières minutes, après un prologue convenu mais efficace. Alors passe encore l'interprétation calamiteuse de tous les comédiens, l'absence de mort visible à l'écran, ou pire, la niaiserie des rapports familiaux, mais ne jamais provoquer le moindre suspense avec un élément aussi, on va dire, apaisant, tantôt anxiogène que l'eau, bah, cela relève quand même du miracle. Prévisible et sans intérêt, Night Swim ne fait que confirmer l'inspiration défaillante des productions Blumhouse, hein, qui ne cesse de toucher le fond. La boîte de Jason Blum, hein, aurait bien besoin, bah, d'une petite cure de jouvence dans une eau régénératrice pour revenir au premier plan. Mais alors, à l'image du film, qui faut-il sacrifier ? Alors, si j'étais méchant, je proposerais bien le réalisateur de ce navet ni fait ni à faire, mais par pure clémence ou curiosité, attendons le deuxième long métrage. Finalement, certains cinéastes ayant très mal démarré ont réussi à surprendre avec le temps, tel par exemple Ty West, hein, qui partit quand même d'un très mauvais The Roost pour finir avec des films comme X ou Pearl, qui étaient plutôt bons. Donc, sait-on jamais. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant pour les productions Blumhouse qui sont, je dirais, depuis un ou deux ans, très très mauvaises en général. Enfin,
alors, il a quand même fallu presque 20 ans à T. West pour prouver qu'il avait quelque chose sous le capot.
Oui, mais il y a quelques films corrects entre-temps, quand même. Hein. Voilà.
Nightwim de Bryce McGuire est en salle depuis le 3 janvier et on attend impatiemment que tu nous parles du yaourt tueur quand même la prochaine fois.
The Stuff, excellent, Larry Cohen.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine. Avec toi, Sophia, tu reviens ?
Oui.
Parfait. Et on parlera de Godzilla, qui est
qui
un
est
carton.
Le film de l'année, oui. Pour le dire, 2023. Ce sera peut-être celui de l'année 2024. En tout cas, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et aussi avec les chambres rouges, plus sombres et plus glauques.
La semaine prochaine.